Merci beaucoup, Louis-Pierre. Bonjour à tous, bonsoir. Je suis très heureux de pouvoir communiquer avec vous, puisse les grâces de Barrel Monial rejaillir jusqu'ici et nous visiter ici en Côte d'Ivoire à l'occasion de cette fête de la Divine Miséricorde. Donc nous allons nous confier à Dieu notre Père, à la Sainte Trinité, en faisant le signe de croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc le thème que je vais traiter, Jean-Paul II et la miséricorde, je voudrais le traiter simplement à partir de l'histoire de ce saint, qui est probablement un des plus grands saints que l'Église nous ait donné, et dont une très grande partie de son histoire a été écrite en lien avec le message de Sainte Faustine. Dans les révélations que celle-ci avait reçues entre 1931 et 1938, il y avait une parole saisissante de la part du Christ que je vous lis. J'aime particulièrement la Pologne et si elle obéit à ma volonté, je l'élèverai en puissance et en sainteté. D'elle sortira l'étincelle qui préparera le monde à ma dernière venue. Lorsque Karol Wojtyła a été élu pape le 16 octobre 1978, beaucoup de Polonais qui connaissaient très bien le petit journal de Sainte-Faustine et qui connaissait bien aussi Karol Wojtyła, qui était archevêque de Cracovie, on pensait qu'il était peut-être cette étincelle dont parlait Jésus à Sainte Faustine dans les années 30. Et cela, Jean-Paul II le savait, et il a voulu, à l'occasion de sa dernière visite en Pologne en 2002, lorsqu'il est venu consacrer le sanctuaire de la Divine Miséricorde tout près du couvent de Sainte-Faustine, là où elle a fini ses jours, mais aussi à 1 km de l'usine où lui-même a travaillé quand il était encore séminariste clandestin. Il a dit ceci: cette étincelle dont parlait Jésus à Sainte-Faustine, c'est le message de la Divine Miséricorde et la grâce qui y est attachée. Il faut répandre ce feu de la miséricorde dans le monde entier. Mais quand on médite sur le fait qu'il est mort 3 ans plus tard, en la vigile de la fête de la miséricorde que lui-même avait instituée, et puis il a été béatifié et canonisé en cette même fête de la miséricorde par Benoît XVI puis par le pape François, on peut se demander si lui aussi n'était pas visé dans cette prophétie donné à Sainte Faustine. Ce qui est sûr, c'est que sa vie a été très profondément marquée par ce message et que lui-même a dit que son pontificat, donc de 1978 à 2005, a été sous le signe de la miséricorde. La miséricorde dessine l'image de mon pontificat, a-t-il dit. Alors nous allons essayer d'approfondir ce message de la miséricorde à travers la figure de Saint Jean-Paul II et la manière dont il l'a compris et reçu. Tout a commencé pour lui en 1938, lorsque, âgé de 18 ans, il est venu avec son père à Cracovie pour étudier la philologie romane à l'université Jagellonne de Cracovie. Cela, c'était vers juillet 1938, quelques mois avant la mort de Sainte Faustine, le 5 octobre 1938. Il ne la connaissait pas, mais un de ses camarades de l'université lui a parlé de Sainte Faustine, Andreas Descures, qui est devenu cardinal par la suite, qui est devenu son grand ami. Et donc, dès l'âge de 18 ans, il a eu connaissance de Sainte Faustine et de son message. Un an plus tard, la guerre commençait en Pologne, la Seconde Guerre mondiale, et il a été obligé d'arrêter ses études. L'université a d'ailleurs été fermée et il est parti travailler comme ouvrier dans une carrière de pierre, puis comme ouvrier dans une usine de l'entreprise Solvay, située à peu près 1 kilomètre du couvent de Sainte-Faustine. Et tous les soirs, en sortant du travail, il marchait avec ses sabots et allait dans ce couvent, prier dans la chapelle du couvent, qui donc habitait sa prière et son cœur. C'était une époque terrible pour la Pologne. Le projet nazi était l'éradication de l'identité et de la culture polonaise, en particulier de toutes les élites polonaises. Et cela a conduit aussi à un nombre terrible de victimes, 6 millions de morts pendant la Seconde Guerre mondiale, dont 3 millions de juifs et 3 millions de catholiques, dont de nombreux prêtres. Jean-Paul II aurait pu sombrer dans la violence face à cette injustice, à cette oppression, comme l'ont fait un certain nombre de jeunes Polonais patriotes de son temps. Lui-même était fils de soldat et il avait une âme de soldat et il aurait pu le faire. Mais Dieu l'a conduit sur un autre chemin à travers un mystique polonais, Jan Tiranowski, qui lui a fait découvrir l'enseignement de Saint Jean de la Croix et de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, et à travers lequel il a découvert dans la nuit que vivait son peuple un chemin de foi et d'espérance, un chemin de prière, un chemin aussi de résistance non violente à l'oppression totalitaire. Et on pourrait dire que ces trois saints, Sainte Faustine, Saint Louis-Marie Pignon de Montfort, Saint Jean de la Croix, ont façonné sa spiritualité et que les trois convergent vers l'heure de la croix, qui est l'heure des ténèbres, on pourrait dire l'heure de Satan, mais qui est aussi l'heure de la rédemption, l'heure du Christ, l'heure du Père des miséricordes, et l'heure de Marie au pied de la croix. C'est donc aussi l'heure de la foi dans la nuit. Et c'est l'heure, mystérieusement, de la victoire sur le prince des ténèbres. C'est l'heure de la miséricorde. C'est le paradoxe de Dieu que souligne Saint Jean de la Croix, c'est que d'une certaine façon, on pourrait dire qu'il n'est jamais aussi actif que quand apparemment il est absent et se cache à l'heure de l'agonie et de la croix. Mystérieusement, cette heure est celle de la victoire de l'amour donnée jusqu'au bout de Dieu en son Fils pour nous les hommes, et de Marie au pied de la croix, la mère de miséricorde. C'est l'heure où Jean, qui nous représente tous, est donné à Marie et Marie à Jean, dans son cœur douloureux et immaculé. La mère de miséricorde devient la mère des pécheurs que nous sommes. Et on pourrait dire que tout l'enseignement de Grignon de Montfort sur la consécration à Jésus par Marie se résume dans cette petite phrase de Saint Jean. Dès cette heure-là, l'heure de la croix, l'heure de la nuit, l'heure de la miséricorde, l'heure de Satan d'une certaine façon, mais était aussi l'heure de Marie, l'heure du triomphe de la foi sur les ténèbres de Satan. Eh bien, tout l'enseignement de Montfort sur la consécration à Jésus par Marie est tout à Marie, pour être tout à Jésus, pour être tout à Dieu, tout à tous, c'est comme ça qu'il comprend la consécration baptismale, eh bien, se résume dans ce petit verset de Saint Jean. Dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Et le message de Sainte Faustine lui-même nous renvoie à cette heure mystérieusement. Ce n'est pas un message à l'eau de rose, c'est un message d'espérance dans la nuit, pourtant de crise. Et c'est pourquoi ce message était particulièrement adapté pour la Pologne, qui allait affronter ces drames de la Seconde Guerre mondiale et de l'idéologie nazie, puis celle du communisme, et qui aujourd'hui encore est confrontée à ce que Saint Jean-Paul II a appelé cette troisième idéologie du mal du XXe siècle, qui est l'idéologie du genre. Et donc, c'est dans cette confluence entre l'enseignement de Saint Jean de la Croix, Saint Louis-Marie et Sainte Faustine que Jean-Paul II a trouvé la force spirituelle nécessaire pour garder l'espérance au cœur de cette nuit. Et il a dit lui-même, hein, cette invocation enseignée par Jésus à Sainte Faustine, « Jésus, j'ai confiance en toi », a été pour lui et pour tous les Polonais une source d'espérance considérable qui leur a permis de résister spirituellement, mais aussi moralement, à ces idéologies totalitaires. Et donc, Jean-Paul II, ouvrier, a commencé à résister à l'idéologie nazie par la culture. Tout totalitarisme est fondé sur le mensonge et la violence. Et une manière d'y résister, c'est de faire la vérité, comme dit Saint Jean. Une des phrases que Saint Jean-Paul II préférait dans toute l'Écriture, c'est celle de Jésus dans l'Évangile de Jean, « La vérité vous rendra libre ». Il y a un lien mystérieux entre la vérité et la liberté. La vérité ne peut se faire que librement, mais à l'inverse, la liberté ne peut être vraiment libre que dans la vérité qui ultimement est le Christ. Et donc, Saint Jean-Paul II, encore très jeune, a fondé un théâtre qu'il a appelé le théâtre rhapsodique, qui consistait à résister pacifiquement, de façon non-violente. Il a fait vraiment ce choix de la non-violence, qui était en démarcation par rapport à beaucoup de jeunes de son temps, de résister donc pacifiquement au totalitarisme par la culture, en proclamant la vérité sous la forme de pièces de théâtre qu'il avait composées, lui ou d'autres. Mais, par la suite, le message de Sainte Faustine et le témoignage d'un autre saint de la miséricorde polonais, le frère Albert Chamiowski, un peintre polonais du XIXe siècle, l'a conduit à faire le choix de la vocation sacerdotale, à laquelle il n'avait pas pensé au départ. Saint Jean-Paul II était une personnalité totalement exceptionnelle sur le plan humain, qui avait en quelque sorte toutes les formes d'intelligence. L'intelligence du cœur, l'intelligence spéculative, philosophique, métaphysique, l'intelligence artistique, l'intelligence politique, l'intelligence relationnelle. Il aurait pu être un homme de culture dans le monde, un grand philosophe, un grand homme de théâtre, un grand poète. Il a d'ailleurs écrit de très belles poésies et de très belles pièces de théâtre. Mais l'exemple de Sainte Faustine et de frère Albert lui a fait comprendre que l'amour miséricordieux est plus que l'intelligence, est plus que la beauté, que l'amour est tout en fait. Et c'est ça qui l'a conduit à vouloir devenir prêtre. L'histoire de frère Albert, il l'a racontée dans une pièce de théâtre qu'il a écrite après la guerre, qui est vraiment de toute beauté, qui s'intitule « Frère de notre Dieu ». Et on pourrait dire que cette pièce a probablement quelque chose d'autobiographique. À travers Frère Albert, c'est lui-même que Jean-Paul II décrit. Frère Albert était un homme extrêmement courageux qui avait lutté au XIXe siècle pour l'indépendance de son pays. La Pologne a été colonisée depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'en 1918 et puis de nouveau à partir de 1939 jusqu'en 1989. Et le sentiment national polonais a toujours été très fort. Et donc Frère Albert était d'abord un soldat qui s'est battu, mais qui a été blessé à la guerre d'un boulet de canon, en tout cas blessé à la jambe. Et il était tellement courageux qu'il a accepté d'être opéré sans anesthésie. Mais après son opération, il ne pouvait plus combattre. Et c'est ce qui l'a conduit à devenir un peintre, un des plus grands peintres de son temps. Un homme de culture, donc. Et dans sa peinture, en même temps, c'est un homme profondément chrétien. Il exprimait sa recherche de Dieu, notamment à travers la représentation du Christ. Et je vais essayer de vous montrer une de ses peintures qui a beaucoup influencé Jean-Paul II. Si vous arrivez à la voir, c'est une représentation de l'Ecce Homo, l'homme des douleurs, le Christ dans sa passion. D'une certaine façon, cette image est aussi pour Jean-Paul II, à l'instar de l'image de la Divine Miséricorde de Sainte Faustine, comme un résumé de tout son message. En fait, il s'est trouvé que Frère Albert, un jour, s'est perdu dans les rues de Cracovie et est tombé dans un asile de SDF. Et là, il a découvert la misère de ces hommes, de ses contemporains, qui vivaient comme des clochards. Et il a été saisi. Et il a eu en lui tout un débat intérieur qu'on voit dans la pièce de Jean-Paul II, entre le fait de représenter le Christ par sa peinture, et des peintures extraordinaires, ou de le servir dans ceux qui portent son image, ses frères en humanité, et en particulier ceux qui, défigurés par la douleur, par la misère, ces SDF, étaient l'image vivante de l'homme des douleurs qu'il avait peinte. Et à un certain moment, c'était un grand combat intérieur. La question de la miséricorde est toujours liée à un combat intérieur. Tous les saints de la miséricorde ont dû combattre avec eux-mêmes, comme Jonas, avant de répondre à l'appel de Dieu. Et probablement Saint Jean-Paul II lui-même aussi, avant de choisir la voie du séminaire. Mais donc, il a décidé à un moment de se faire SDF avec les SDF. De quitter son métier de peintre célèbre pour devenir un pauvre parmi les pauvres. Et il a fondé une congrégation d'inspiration franciscaine qui a perduré jusqu'à aujourd'hui. Et on peut penser qu'il a fasciné Jean-Paul II précisément parce qu'il avait, dans une période dramatique de la Pologne, un peu le même profil de personnalité que Carole, un homme très courageux, un homme très doué, à la sensibilité artistique, mais qui finalement fait le choix de se faire un pauvre parmi les pauvres par amour du Christ, qu'il veut servir à travers eux. Et c'est l'exemple de Frère Albert et celui de Sainte Faustine qui ont poussé Saint Jean-Paul II à entrer au séminaire. Au passage, lorsqu'il deviendra pape, c'est lui qui béatifiera et canonisera Frère Albert. Et 25 ans après, le pape François déclarera Frère Albert patron de l'Europe d'après le mur de Berlin. Donc, il nous est donné à tous, en tant qu'Européens, comme patron. Et nous avons dans les manuels un prêtre qui a fait le choix. Il ne connaissait pas Frère Albert, mais il a été poussé par Dieu à faire le même choix que Frère Albert, de se faire SDF avec les SDF. Je lui ai appris qu'en fait, il imitait le saint patron de l'Europe d'aujourd'hui. Donc, Jean-Paul II est entré au séminaire dans une période dramatique. Lui-même avait perdu toute sa famille, son père qui était le seul survivant de sa famille, est décédé au début de la guerre. Beaucoup de ses amis étaient morts. Beaucoup étaient morts dans les camps. Beaucoup de martyrs polonais ont connu la mort dans les camps. Et le jour de son ordination, il était seul. Donc, il a commencé comme séminariste clandestin, donc ouvrier le jour et lisant ses cours la nuit. Et il a été ordonné seul. Et il a eu le sentiment que sa vocation était portée par le sacrifice de ces millions de victimes du nazisme. Un peu comme un cardinal Lustiger qui a perçu que sa vocation particulière de prêtre, puis d'évêque, puis de cardinal était portée aussi par tous ses frères juifs morts dans les camps, dont sa propre mère. Eh bien, pour Jean-Paul II, ça a été ça. Il a eu, dès le départ, une conception sacrificielle de sa vocation, portée par le sacrifice de millions de Polonais. Lui-même, il a voulu faire de sa vie un sacrifice et se faire en quelque sorte la voix des sans-voix. Et donc, il a été porté par ce message de la miséricorde dans son presbytérat. Il a fait un doctorat en théologie sur la foi, c'est Saint Jean de la Croix, donc qui était cohérent avec sa spiritualité personnelle. Il aurait pu devenir carme, mais bon, mais Dieu l'a conduit dans la voie du clergé diocésain. Mais encore une fois, c'est ce chemin de l'espérance dans la nuit qu'il a guidé à l'école de Sainte-Faustine et de Saint-Jean de la Croix et de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Je voudrais faire une petite parenthèse. Vous êtes à Paray-le-Monial, la ville du cœur de Jésus, et il y a un lien évident entre le message de Sainte-Faustine et celui de Marguerite Marie. La Cracovie a été la première ville à accueillir d'une certaine façon la demande faite à Marguerite Marie par le Christ d'une fête en l'honneur du Sacré-Cœur. Et c'est par la visitation de Cracovie, puis l'archevêque de Cracovie, et finalement les évêques de Pologne, que cette fête a pu être célébrée pour la première fois à partir de 1765. Et il y a un lien évident entre le message de Sainte-Faustine et la dévotion au cœur de Jésus. Néanmoins, il y a aussi quelque chose qui était présent chez Marguerite Marie, mais qui va être déployé à Cracovie, qui est la dimension trinitaire de ce culte. À travers toutes les prières reçues par le Christ, Sainte Marguerite Marie déploie en fait la dimension trinitaire du cœur de Jésus, dans l'Eucharistie notamment. Et je dirais cette prière qui est orientée vers le Père des miséricordes. Le cœur du Christ nous révèle le Père des miséricordes qui nous livre les fleuves de son amour miséricordieux dans l'Église. Et dans la représentation de l'image demandée à Sainte Faustine pour la fête de la miséricorde, celle que vous avez normalement dans la salle, la première image, la seule qu'elle ait vue de son vivant, eh bien en fait, il y a quelque chose de très impressionnant qui est tout d'abord, j'allais dire, la dimension trinitaire de cette image. C'est vrai que sur l'image, on ne voit que Jésus, mais Jésus en tant qu'il est icône de la miséricorde du Père, qu'il est comme la transparence du Père. Qui me voit, voit le Père. Et on pourrait dire que même cette ténèbre qui entoure Jésus peut exprimer les ténèbres du monde que Jésus a traversé dans sa miséricorde pour nous libérer de ces ténèbres. Hein, lui qui vient vers nous dans la nuit et qui traverse la nuit du péché, la nuit des ténèbres, la nuit de Satan ultimement, pour nous en libérer. Mais on pourrait dire aussi, parce qu'un symbole peut toujours avoir plusieurs interprétations, que ces ténèbres peuvent aussi exprimer le mystère du Père. C'est vrai que Jésus nous révèle le Père, mais le Père reste pour nous toujours un mystère incompréhensible. Comme disait saint Irénée, commentant le prologue de saint Jean, le Père est l'invisible du Fils, comme le Fils est le visible du Père. Le Père est un soleil d'amour tellement lumineux, tellement puissant, tellement sage, tellement rayonnant que pour nous, il devient une nuit. Saint Jean de la Croix dira qu'il est une nuit d'aurore, traversée par la lumière de l'amour. Mais il est une nuit. Et Ceci exprime quelque chose de très important, c'est que cette icône est trinitaire, mais qu'elle est donnée pour le temps de la nuit. Le temps de la miséricorde, c'est le temps aussi de la nuit. C'est le temps où le Christ nous rejoint au cœur de nos nuits, au cœur de la nuit du monde d'aujourd'hui, comme celui de la nuit du XXe siècle. Alors, l'Esprit Saint, bien sûr, il est figuré à travers les rayons blancs et rouges qui nous renvoient au transpercement du Christ et au sang et l'eau qui ont jailli, donc le don de l'Esprit Saint sous sa forme sacramentelle, mais aussi, j'allais dire, sous sa forme pentecostale, parce que l'Esprit Saint est livré aussi comme le souffle du Christ à la croix et à la résurrection. Et donc, il y a une dimension trinitaire de cette image. Il y a aussi une dimension œcuménique, parce que cette image fait un pont entre la tradition latine de la dévotion au cœur de Jésus, qui a été déployée ici à Paray-le-Monial, et la tradition orientale de l'icône. Elle n'est pas une icône, mais elle rejoint la tradition orientale de l'icône, ne serait-ce que par le fait que le Christ est glorieux. Nos frères d'Orient, orthodoxes notamment, aiment beaucoup représenter le Christ dans sa gloire ou dans sa transfiguration. Il est glorieux et la source de cette gloire, de cette lumière, c'est son cœur, on le voit bien. Mais le cœur n'est pas représenté. De la même façon qu'il n'est jamais représenté en Orient. Les Orientaux n'ont pas eu besoin d'une manifestation particulière du Christ comme à Paray-le-Monial pour comprendre par le cœur, justement, que le cœur chez Saint Jean, c'est central. Ceux qui vivent du cœur Jésus ne sont pas forcément ceux qui en parlent le plus. Les Orientaux en parlent peu, mais ils en vivent davantage. Ils le comprennent par le cœur, parce qu'ils ont une mentalité très joannique. Et ils ont une grande dévotion pour Saint Jean et Saint Thomas, les deux grands témoins du cœur Jésus dans l'évangile de Jean. Et donc, le cœur n'est pas représenté, il est simplement désigné par cette source de lumière et les rayons qui en jaillissent, les rayons rouges et blancs. Mais c'est la même chose dans l'évangile de Jean. Le cœur n'est jamais montré, il est toujours désigné, mais jamais montré. Parce que cela fait partie du mystère du cœur d'être caché en humble place au creux de notre poitrine. Il désigne un mystère qui est le mystère même de la personne, son mystère intérieur. Il est comme ce soleil intérieur qui donne vie à tout notre être, mais qui précisément est en humble place au creux de notre poitrine. La tête, c'est ce qui se voit, le cœur, c'est ce qui se devine. Et donc, dans cette reproduction, dans cette représentation, eh bien, il y a comme un pont entre l'Orient et l'Occident, les deux poumons de l'Église, pour parler comme Saint Jean-Paul II. Et la Pologne, précisément, avait une vocation particulière, probablement, pour œuvrer pour ce rapprochement des deux poumons de l'Église. Parce que, de culture slave, elle était ouverte à toute la culture russe, notamment, de l'orthodoxie, mais parce que de culture latine, elle était aussi ouverte à toute la tradition occidentale, et notamment celle du cœur de Jésus. Et Saint Jean-Paul II a été de ceux qui ont essayé d'œuvrer le plus au rapprochement de l'Est et de l'Ouest de l'Europe, notamment à travers le dialogue œcuménique, mais aussi à travers le culte de la miséricorde. Nos frères d'Orient ont une très grande dévotion à la miséricorde. Ils ne connaissent pas les révélations de Sainte Faustine, souvent, pas toujours en tout cas, mais ils n'ont pas attendu Sainte Faustine pour avoir une très grande dévotion à la miséricorde. Mais malheureusement, malgré tous les efforts de Saint Jean-Paul II, ces deux poumons ne se sont pas suffisamment réconciliés pour pouvoir éviter cette guerre atroce que nous vivons aujourd'hui au cœur même de l'Europe. Et où notre continent est comme coupé en deux par l'esprit de division. Et c'est une terrible tragédie. Mais on peut espérer malgré tout de la miséricorde de Dieu, encore aujourd'hui, que Dieu nous évitera le pire. Et donc, tout ça, je ferme la parenthèse, mais pour dire que dans l'image même de la miséricorde, il y a comme un déploiement de plusieurs aspects qui sont essentiels à ce message, l'aspect trinitaire, l'aspect nocturne, si je puis dire, et l'espérance en même temps, Jésus, j'ai confiance en toi, et puis l'aspect œcuménique. C'est vraiment donné pour l'Europe d'après le mur de Berlin, pour la nouvelle évangélisation, comme le cœur en quelque sorte de la nouvelle évangélisation. Donc je reviens à Jean-Paul II. Il, donc porté par ce message, il devient prêtre, puis évêque auxiliaire, puis archevêque de Cracovie. Et il va, en 1965, devenu archevêque, il va réouvrir le procès de béatification de Sainte Faustine. Sainte Faustine avait publié son petit journal avec l'aide de son père spirituel, le père Michel Sopposco, qui est mort un 15 février comme Saint-Claude de la Colombière. Et à un moment, son petit journal, à cause d'une mauvaise traduction en italien, a été suspecté par ce qu'on appelait à l'époque le Saint-Office, qu'on appelle aujourd'hui la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, d'être d'abord un doublon de la fête du Sacré-Cœur, de la dévotion au Sacré-Cœur, et donc de n'avoir aucun intérêt, mais aussi d'être un message nationaliste, parce que la représentation de la miséricorde avec ses rayons rouges et blancs pouvait évoquer aux yeux des censeurs romains le drapeau polonais, qui est également rouge et blanc. Et donc, à cause de ça, le Saint-Office avait refusé de reconnaître les révélations de Sainte Faustine. Mais quand Jean-Paul II est devenu archevêque de Cracovie, connaissant bien Paul VI, ayant lui-même beaucoup travaillé au Concile Vatican II, il était un des plus jeunes évêques du Concile, mais probablement un des plus lucides interprètes du Concile. Il a participé notamment à la rédaction de la Constitution Gaudium et Spes. Eh bien donc, il était bien connu désormais, c'est un des rares évêques de l'Église du silence qui a pu participer au Concile, où il a une très grande influence, et dont il voyait le texte sur la liberté religieuse comme le texte le plus important. Eh bien donc, Saint Jean-Paul II a pu obtenir que soit relancé le procès de Sainte Faustine. 1965, c'est aussi une année très importante, c'est l'année où les évêques polonais se sont réconciliés avec les évêques allemands. Il y a eu une démarche de réconciliation, évidemment portée par le message de la miséricorde. Je ne sais pas, je ne peux pas affirmer que Saint Jean-Paul II a joué un rôle moteur dans cette démarche, mais cela ne m'étonnerait pas du tout. Et un des fruits de cette démarche a été la collaboration entre Joseph Ratzinger et Saint Jean-Paul II pendant tout son pontificat, pratiquement. Hein? Ces deux hommes ont porté vraiment... je dirais l'Église, hein, pendant tout le pontificat de Jean-Paul II, et ça s'est poursuivi ensuite, bien sûr, par le pontificat de Benoît XVI. Donc, ce message de la miséricorde, dont il a été, comment dirais-je, le défenseur, il était vécu très concrètement à travers des actes de réconciliation. Et puis donc, en 1978, Karol Wojtyła devient le pape Jean-Paul II, en la fête de Marguerite Marie et de Sainte Edwige. Et très vite, dans son enseignement, il va déployer théologiquement sa compréhension du Concile, mais aussi du message de Sainte Faustine, à travers ses trois grandes premières encycliques que sont Redemptor Hominis en 1979, Dives in Misericordia en 1980 et Dominum et Vivificantem en 1984. Pardon, oui, je crois en 1984. Qui sont une méditation sur les trois personnes de la Trinité et qu'on pourrait considérer comme étant une sorte d'explicitation théologique du message de Sainte Faustine. La première encyclique, qui est l'encyclique programmatique, de son pontificat, Redemptor Hominis, et comme je dirais, la méditation théologique de Jean-Paul II sur le Concile, mais aussi sur ce que j'ai dit sur Frère Albert et sur le message de la miséricorde. C'est-à-dire que le Christ rédempteur de l'homme révèle non seulement le visage du Père, mais le visage de l'homme. Voici l'homme, l'homme des douleurs. Voici l'homme. Dans cette encyclique, Jean-Paul II s'interroge sur le sens du Concile Vatican II. Il dit, ce concile a été un concile pastoral. Qu'est-ce que c'est qu'un concile pastoral? C'est un concile au cours duquel l'Église s'est en quelque sorte penchée sur ce que la Bible et même des cultures non bibliques appellent le cœur, c'est-à-dire le mystère intérieur de l'homme. Et le Christ, qui nous révèle le Père, nous révèle aussi le mystère de l'homme, créé à l'image et ressemblance de Dieu. Et il ajoute, quand je dis ceci, je n'oublie pas même un instant que ce mystère s'est accompli dans la parfaite justice d'un cœur humain rendu à Dieu, c'est-à-dire dans la rédemption. C'est le Christ rédempteur, le Christ crucifié et glorifié qui révèle à l'homme le mystère du Père, des miséricordes, mais en même temps le mystère de sa vocation à l'amour, sa vocation divine à la communion avec Dieu et avec les autres, mais en moyennant le mystère de la croix et de la résurrection. Voici l'homme. Ça, c'est sa première encyclique. J'ai oublié de souligner que pour Jean-Paul II, ce message de la miséricorde qu'il va transmettre au monde est la réponse de Dieu aux grandes idéologies du mal du XXe siècle, au drame de l'humanisme athée, du nazisme, du communisme, et puis aujourd'hui de cette culture libérale libertaire qui prétend faire de l'homme un dieu. Pour lui, ce message de la miséricorde, justement, il révèle à l'homme la sublimité de sa vocation. C'est dans le Christ, miséricordieux, icône de la miséricorde du Père et dispensateur du don de l'Esprit Saint, retrouver non seulement l'image, mais la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire sa vocation à l'amour jusqu'au don total de sa vie pour Dieu et pour ses frères, à l'image du Christ lui-même. Et donc, il a vu dans ce message la réponse divine au drame de l'humanisme athée, du nazisme, du communisme et ensuite du libéralisme libertaire, eh bien, comme indication du véritable visage de l'homme, de la véritable divinisation de l'homme, de la véritable glorification de l'homme, qui est au fond d'imiter le Christ au point de devenir lui-même icône de la miséricorde du Père. Et donc, c'est ce qu'il manifeste à travers sa première encyclique quand il parle du Christ rédempteur. Et il déploie cela dans sa deuxième encyclique en 1980, en montrant comment justement ce cœur transpercé du Christ nous révèle les abîmes insondables de la miséricorde du Père. On rejoint ici, encore une fois, hein, ce qu'on appelle en théologie la mystique négative. Quand sainte Faustine parle de la miséricorde du Père, elle emploie toujours un vocabulaire négatif. Insondable, incompréhensible, incommensurable, infini. C'est-à-dire, au fond, encore une fois, elle manifeste que cette miséricorde, elle dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Elle dépasse toute image, tout concept, toute compréhension, parce qu'elle est l'essence même de Dieu. Dieu est miséricorde, dira le nom de Dieu est miséricorde, dira Benoît XVI. Et donc, il y a quelque chose qui, pour nous, est négatif parce que ça dépasse complètement nos images, nos représentations, mais même notre intelligence. Mais en même temps, c'est ce mystère qui se déploie dans l'agonie, dans la croix, mais aussi dans la résurrection. C'est ce mystère qui nous est donné de vivre par la foi chrétienne. Et donc, il va développer dans sa deuxième encyclique toute une théologie de la miséricorde du Père qui a, un attribut à la fois masculin et féminin. Masculin parce que cette miséricorde dans l'Ancien Testament s'exprime par le mot de chesed qui évoque la fidélité de Dieu à lui-même vis-à-vis de son peuple. Un Dieu reste indéfectiblement fidèle à son peuple malgré toutes ses trahisons, le peuple d'Israël, parce que il est comme un époux qui reste indéfectiblement fidèle à sa parole, même si son épouse le trahit. Et puis, l'attribut féminin de la miséricorde, le chechem ou rachamim, les entrailles de miséricorde maternelles de Dieu, hein, l'utérus, on pourrait dire, de Dieu dans le terme hébreu, qui est, au fond, cet amour inconditionnel de Dieu pour ses créatures, même quand celles-ci le rejettent et le transpercent. Dieu ne peut se résoudre à les abandonner comme une mère qui ne peut abandonner l'enfant qu'elle a porté 9 mois dans son sein. Donc, il médite sur cette dimension à la fois masculine et féminine de la miséricorde en Dieu. Et puis, il développe toute une théologie de la miséricorde. C'est un des plus beaux textes qui ait été écrit sur ce sujet, Et lui-même dira que cette encyclique est tout simplement inspirée par le message de Sainte Faustine. Au passage, Sainte Faustine était une personne très pauvre, issue d'un milieu de cultivateurs. Elle savait à peine lire et écrire. Et dans la congrégation vouée à la miséricorde dans laquelle elle a été reçue, elle était sœur converse. C'est-à-dire qu'elle avait des tâches très humbles de cuisinière, de jardinière, de portière. Et Dieu lui a confié une mission absolument incroyable qui est d'annoncer la miséricorde au monde entier et de préparer le monde entier à sa venue dans la gloire. Et ce qui est frappant dans son petit journal et dans tous ses écrits, ce qui a beaucoup frappé le père Soposco, qui lui a fait croire à l'authenticité de ses révélations, c'est l'extraordinaire qualité théologique de ses révélations. Elle voit tout sous le signe de la miséricorde, la création, l'histoire, la rédemption, bien sûr, les sacrements, la vie de l'Église, la mission. Tout est relu et d'une façon théologiquement très pure. Et de la même façon, Saint Jean-Paul II développe ce mystère de la miséricorde comme le mystère central de l'Église. La fête de la miséricorde, c'est le jour de l'octave de Pâques, c'est-à-dire c'est le dimanche des dimanches. Dans la Bible et dans la liturgie, le huitième jour accomplit le premier, le jour de la miséricorde qui est le jour de Thomas. C'est aussi le dimanche in albis où les nouveaux baptisés de Pâques revêtent les vêtements blancs de leur baptême pour manifester qu'ils sont ressuscités avec le Christ. Si le Christ est ressuscité dans la nuit de Pâques, c'est pour que nous ressuscitions dans les eaux du baptême aujourd'hui et à la fin des temps dans la résurrection des morts. Et pour nous qui sommes déjà baptisés en cette fête de la miséricorde, nous pouvons recevoir en quelque sorte la grâce d'une actualisation de notre baptême par une indulgence totale de nos péchés, si nous nous confessons et nous communions. Une indulgence totale. C'est vraiment très impressionnant. Et pour manifester précisément que nous sommes ressuscités, nous qui sommes baptisés, nous participons à la victoire du Christ, l'icône de la miséricorde du Père, qui par son amour donné jusqu'au bout a triomphé des ténèbres, de la mort, du péché, de Satan, et qui nous a entraînés dans son triomphe. Donc, il médite là-dessus, sur ce mystère de la miséricorde, comme étant le mystère central de l'Église et de sa mission, et notamment ce que le pape François appellera le cœur battant de la nouvelle évangélisation. C'est vraiment le cœur de la proclamation de l'Église, comme l'a expliqué sainte Faustine. D'abord, être témoin de la miséricorde par nos actes, par nos œuvres de miséricorde, être également témoin par nos paroles, et finalement témoin par l'offrande de notre vie, par notre prière. Alors, au passage, justement, Saint Jean-Paul II, cette encyclique est publiée en 1980. L'année suivante, il est victime de son attentat sur la place Saint-Pierre, qui aurait dû l'emporter, devait mourir. Aliaka était un tueur professionnel. Et apparemment, la seule question qu'il a posée à Jean-Paul II lorsque celui-ci est venu le visiter dans sa prison, c'est « Pourquoi vous n'êtes pas mort ?» C'est pourtant bien tiré. Il n'avait aucun repentir de ce qu'il avait fait. Et ça, d'ailleurs, ça a beaucoup inquiété Jean-Paul II, qui a beaucoup prié pour lui, pour le salut de son âme. Il a voulu, en tout cas, signifier son pardon au monde entier, lui qui avait été transpercé par cette balle qui devait le tuer, mais protégé par la Vierge Marie. Il a dit une main a tiré, une autre a détourné la balle du tueur. Et Aliaka lui-même a pressenti qu'il y avait quelque chose de surnaturel dans le fait que Jean-Paul II n'était pas mort. Et donc, il a voulu manifester aux yeux du monde entier ce pardon à Jean-Paul II, à Aliaka. Et puis, à l'occasion de cet attentat, quelque chose malheur est bon, il a pris connaissance du message de Fatima, qu'il ne connaissait pas vraiment. Il avait une très grande dévotion mariale, il aimait beaucoup Grignon de Montfort, il priait tous les jours Notre-Dame de la Salette avant son attentat, mais il n'avait pas véritablement étudié le dossier de Fatima. Et donc, lorsqu'il est sorti des eaux de la mort à l'hôpital de Rebibbia, où il était à Rome, il a demandé à voir le dossier de Fatima et notamment le fameux secret, les trois secrets de Fatima. Et il s'est reconnu dans le troisième secret, qui représentait un homme en blanc qui montait sur une colline jonchée de cadavres et qui, à la fin, était lui-même abattu. Et il a compris que c'était lui, en tant que pape, l'homme en blanc, qui devait mourir normalement à la suite des innombrables martyrs du XXe siècle, mais qui avait été protégé par la Vierge Marie, la Vierge de Fatima, pour pouvoir être témoin de la miséricorde de Dieu pour le monde entier. Et il a vu aussi, à travers le dossier de Fatima, que ce qui avait été demandé à Lucia par la Sainte Vierge et par Jésus, à savoir la consécration du monde entier au cœur immaculé de Marie par le pape en union avec les évêques du monde entier, n'avait pas été réalisée. Cette demande avait été faite d'abord en 1917, puis renouvelée dans les années 1920, mais à l'époque, Benoît XV puis XI n'avaient pas pris cela au sérieux, et la Seconde Guerre mondiale a commencé exactement comme l'avait dit Lucia, et comme l'avait annoncé la Vierge à Fatima, si on ne consacrait pas le monde à son cœur immaculé. Et donc en 1942, les évêques portugais et Lucia ont écrit à Pie XII pour lui demander de faire cette consécration, et Pie XII l'a faite à la fin du mois d'octobre 1942 par radio-message, mais il l'a faite personnellement, sans associer ni la curie, ni les évêques du monde entier. Et trois mois après, la guerre a connu un tournant. Les Allemands ont commencé à perdre les batailles de l'Afrique du Nord, de l'Atlantique et de Stalingrad. Et Lucia a écrit au pape Pie XII, « Parce que vous avez consacré le monde au cœur immaculé de Marie, la Deuxième Guerre mondiale va s'arrêter. Mais parce que vous ne l'avez pas consacré en union avec les évêques du monde entier, le communisme va continuer à répandre ses erreurs dans le monde entier. » Et c'est ce qui s'est passé. À la conférence de Yalta, 1944, si je ne me trompe pas, eh bien, le monde a été partagé par Roosevelt et Staline, et la Russie communiste a reçu pratiquement la moitié du monde, hein, toute l'Europe de l'Est, la Chine, hein, alors que les Russes n'avaient rien fait en Chine, etc. Et le communisme, effectivement, s'est développé dans le monde entier. Ça a été la guerre froide jusqu'en 1989. Oula, oui. Donc, je me dépêche. Donc, toujours est-il que Jean-Paul II a voulu consacrer le monde au cœur immaculé de Marie, et il a commencé l'année suivante, après son attentat, à vouloir aller à Fatima en pèlerinage. De nouveau, il a failli être tué par un prêtre espagnol intégriste qui s'est jeté sur lui avec un couteau. Et quand on voit l'image de Jean-Paul II, c'est simplement sidérant. On voit Jean-Paul II qui bénit cet homme qui veut le tuer le jour anniversaire de son attentat. Il est vraiment comme possédé par l'Esprit-Saint. Il est comme vraiment aux yeux du monde entier comme l'icône de Jésus miséricordieux. Il a incarné, non seulement par son enseignement, mais par sa vie, ce témoignage du Christ miséricordieux. Et puis, en 1984, il consacre le monde en union avec les évêques du monde entier. Et là, comme l'avait dit Marie à Fatima, eh bien, le monde va connaître un certain temps de paix. Hein, c'est la perestroïka qui va commencer en Russie, la révolution du rosaire à Manille l'année suivante, et puis dans les 10 ans qui suivent, 85 révolutions pacifiques dans le monde entier, hein, dans les pays de l'Est, puis en Russie, puis au Mexique, au Nicaragua, au Bénin, au Congo, hein, c'est où l'Église a joué un rôle moteur. Et je crois me rappeler qu'en l'an 2000, Jean-Paul II a dit que cette consécration avait évité au monde une guerre nucléaire. Et donc, grâce à cela, dans la deuxième partie de son pontificat, eh bien, Jean-Paul II va pouvoir béatifier puis canoniser Sainte Faustine en l'an 2000 et instituer la fête de la miséricorde et en l'an 2002 confier le monde et le troisième millénaire à la divine miséricorde. Et le pape François a dit en 2014 que, en fait, le monde était entré dans le temps de la miséricorde depuis, disait-il, à peu près 30 ans, c'est-à-dire depuis 1984. Probablement parce que c'est l'année de la consécration du monde au cœur immaculé de Marie. Comme si ce temps de miséricorde que vit le monde encore aujourd'hui, dans lequel nous sommes, c'est le temps de grâce que Dieu donne au monde pour se convertir, avant que ne vienne le temps de la justice, qui sera le temps de la venue du Christ en gloire, le temps du jugement dernier, celui de la résurrection et celui des cieux nouveaux et de la terre nouvelle. Et à travers ce message, qui est repris ensuite par Benoît XVI et encore plus par le pape François, bah, d'une certaine façon, il rappelait au monde entier que nous serons jugés sur la miséricorde, sur la façon dont nous aurons vécu, hein, comme le dit Matthieu 25, bah, les œuvres de miséricorde corporelles, hein, et puis aussi les œuvres de miséricorde spirituelles. Je ne vais pas les répéter ici, parce que le temps fait défaut. Et donc, Jean-Paul II a été pour le monde entier, à travers tous ses voyages, à travers son enseignement, à travers ses signes de miséricorde extraordinaires, de réconciliation, de repentance aussi à l'aube de l'an 2000, pour tous les péchés commis par des chrétiens pendant le deuxième millénaire, il a été comme l'incarnation, j'allais dire, de l'enseignement de Sainte Faustine pour le monde entier. C'est vraiment très frappant. Et vraiment, en lui, j'allais dire, le monde entier a pu reconnaître non seulement un homme, le Dieu, mais un homme tout court. Lorsqu'il est mort, d'une certaine façon, le monde entier était obligé de venir se recueillir sur sa tombe, même ceux qui étaient non-croyants ou carrément opposés à l'Église. Mais parce qu'il y avait en lui quelque chose qui rejoignait la vocation de tout homme, qu'il soit chrétien ou qu'il ne le soit pas, tout homme est appelé à devenir icône de la miséricorde du Christ. Et d'ailleurs, il y a des pierres d'attente de ce message de la miséricorde dans les autres religions, que ce soit bien sûr le judaïsme, mais aussi l'islam, et même dans les traditions religieuses de l'Asie, que ce soit le bouddhisme dans sa forme chinoise, le taoïsme ou d'autres formes religieuses. Et bien sûr aussi, dans, je dirais même dans la culture post-chrétienne de notre Occident vieilli, de notre vieille Europe, hein, il y a aussi une attente de ce message de la miséricorde. Dans ce monde où on ne croit plus à la vérité, on attend de nous, les chrétiens, des actes de miséricorde. Et ça, ce message parle à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour le comprendre. Il n'y a pas besoin de connaître l'enseignement de l'Église pour le comprendre. C'est un message qui rejoint le cœur. Voilà, donc Jean-Paul II a été donné au monde, peut-être justement pour préparer le monde à l'avenue du Christ dans la gloire. En tout cas, il a dit lui-même que ce message dont il était le porteur, qui a façonné tout son pontificat, était l'ultime planche, enfin ça c'est Jésus qui l'a dit, l'ultime planche de salut pour l'humanité, mais aussi était l'étincelle qui devait préparer le monde à l'avenue du Christ en gloire. Donc c'est quelque chose de fondamental, au cœur de l'année liturgique, au cœur de notre foi, au cœur de l'enseignement des derniers papes, et notamment de Jean-Paul II et du pape François. Et donc c'est quelque chose à prendre très au sérieux. Dans la confiance, message d'espérance pour temps de crise, nous vivons aujourd'hui de nouveau une très grande crise. Ce message nous est donné comme une lumière dans la nuit. Le monde ne connaîtra pas la paix tant qu'il ne se tournera pas vers ma miséricorde, a dit Jésus à Sainte Faustine. Plus que jamais, nous avons besoin aujourd'hui d'être instruments de cette miséricorde par nos actes, et notamment nos pardons donnés les uns aux autres, par nos paroles, paroles de miséricorde, et aussi par notre prière et notre confiance en Dieu et dans sa divine providence. Et tout cela, eh bien, nous pourrons le vivre à l'école de Jean-Paul II en nous mettant nous-mêmes à l'école de Marie, notre mère, la mère de miséricorde, la mère des pécheurs, la toute sainte. Voilà, merci pour votre attention. Merci à Dieu aussi qui a permis que la connexion ne baisse pas trop. J'espère que vous m'avez bien entendu. D'accord. Merci beaucoup. En union de prière, je vous confie tous ces conflits qui ensanglantent non seulement notre vieille Europe, mais aussi l'Afrique aujourd'hui, que ce soit ici en Afrique de l'Ouest, dans le Sahel, ou en Afrique des Grands Lacs, dans la région du Kivu. Mais vraiment, nous avons besoin tous de la miséricorde de Dieu pour nous aimer les uns les autres, pour nous pardonner, pour construire la civilisation de l'amour dans le temps qui est le nôtre. Merci à tous. Que Dieu vous bénisse.